Bonsoir tout le monde.
J'espère que vous êtes bien installés. On est parti pour 30 minutes avec une nouvelle conférence, un nouveau sujet, une nouvelle thématique et une nouvelle chercheur. Puisque c'est Hélène qui est parmi nous et qui va s'intéresser donc et bien, enfin qui s'est intéressée à la méditation, d'où cette ambiance zen qui fait du bien, parce que ça fait maintenant plus de 2h30 que nous sommes en train de parler, d'écouter. L'histoire de la méditation sera abordée. On va se plonger donc et bien dans les années 70. Tout à l'heure, pour comparer, on a parlé de Jimi Hendrix à peu près donc et bien à la même époque. Qui lui aussi s'était intéressé aussi au bouddhisme et à la méditation. Sera-t-il question de Jimi Hendrix avec toi ? Ça, je ne sais pas. Je t'en prie.
Merci. Ah oui, donc ça y est, ça commence.
Ah oui, ça commence. Hein. Le noir se fait. Malgré la détente, on met un timer.
Donc, la méditation... Ce terme recouvre en fait une réalité multiple. Il y a des dizaines de milliers de types de méditation qui existent. C'est une pratique traditionnelle qu'on retrouve dans le bouddhisme notamment, pas seulement, donc plutôt dans des traditions religieuses à la base. Et c'est des outils de transformation de l'esprit, de travail sur son esprit, donc des outils qu'on pourrait qualifier de spirituels et qui sont à l'origine... Donc, en connexion avec des croyances, des rituels, des choses comme ça, hein, toutes les caractéristiques culturelles qu'on peut trouver dans des religions. Et dans les années 1970, il y a un monsieur qui a fait sortir... la méditation de son contexte, en l'occurrence bouddhiste Theravada, c'est-à-dire c'est le bouddhisme qui est pratiqué en Asie du Sud-Est. En fait, il a extrait les techniques, qui sont des techniques d'entraînement mental, en quelque sorte. Il les a extraits de leur contexte. Et il en a fait un protocole pour l'enseigner aux gens. C'est ce qu'on a appelé la pleine conscience, mindfulness en anglais. Et il a créé en particulier le programme MBSR pour Mindfulness Based Stress Reduction, donc la réduction du stress basée sur la pleine conscience. Ce monsieur, c'était un biologiste moléculaire, il travaillait en clinique. Et il s'est mis à enseigner la méditation, qui a été donc laïcisée, spécialement pour les personnes qui étaient dépressives et pour les douloureux chroniques. Et donc ça, c'était en 1979 qu'il a créé ce programme et qu'il s'est mis à l'enseigner. Et ça, ça a permis une occidentalisation de la méditation. C'est-à-dire que la méditation, à ce moment-là, elle a pu être enseignée dans différents contextes. Et il y a plein de programmes qui ont été créés à différentes finalités. Il y a ça d'une part, donc, où on retrouve aujourd'hui maintenant la méditation dans les prisons, les hôpitaux, les écoles, l'université, les entreprises. À l'armée américaine, il paraît qu'ils apprennent la méditation pour, aux snipers notamment pour mieux viser leurs cibles. C'est un entraînement de l'attention. Pour vous donner un exemple de ces pratiques de mindfulness, une pratique de base, c'est apprendre à être attentif à sa respiration. Pendant plusieurs minutes, essayer d'être conscient du fait qu'on respire. Et ben ça, en fait, c'est pas facile quand on essaye. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très terre-à-terre. Parce que l'attention, ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'elle dérive. Il y a les pensées qui viennent et on se met à penser à tout un tas de choses et on n'est plus conscient de sa respiration. Et en fait, rester conscient de sa respiration pendant quelques minutes, c'est difficile en fait, quand on n'est pas entraîné. Et c'est ce genre d'entraînement-là qui a plein de bénéfices, notamment pour la santé. Et ce programme-là, MBSR, il a permis donc cette popularisation dans différents milieux. en Occident grâce à cette laïcisation, mais aussi il a permis d'énormes développements des recherches. Parce que grâce à ce programme, on pouvait le reproduire, enseigner des gens à l'enseigner eux-mêmes et faire des expérimentations, des mesures sur la base d'un programme qui est un programme d'environ 25 heures. Et on pouvait essayer de mesurer qu'est-ce que ça fait quand les personnes apprennent à méditer. Alors l'enseignement lui-même dure 25 heures, mais les personnes doivent s'entraîner chez elles en plus. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'on a montré sur les effets de la méditation ? Alors, pas seulement grâce à ça, il y a aussi des études qui sont basées sur la comparaison de novices ou de non-méditants avec des méditants experts. Les méditants experts, typiquement, ce sont des moines bouddhistes qui ont médité des dizaines de milliers d'heures, qui ont fait des retraites où ils méditaient 10 heures par jour pendant 3 ans. Donc des personnes qui ont une très grande expérience de la méditation. Typiquement, si vous comparez comme ça des experts en méditation avec des gens qui ne méditent pas, au niveau cérébral, si vous mettez ces personnes-là dans un IRM, on voit des différences très marquées. Par exemple, les zones du cerveau activées par défaut ne sont pas les mêmes chez les méditants experts ou chez les novices. Et on interprète que chez les novices, notamment les zones du cerveau qui sont activées par défaut, c'est celles qui sont liées à ce qu'on appelle le mind wandering, l'errance mentale. C'est le fait d'avoir le petit vélo qui tourne dans la tête et qui pense à tout un tas de choses, sachant que cette errance mentale, elle est associée plutôt, on va dire, à une forme de mal-être plus ou moins diffus. Il y a aussi, par exemple, une atténuation du vieillissement cérébral. En moyenne, les méditants experts, ils ont une plus grande épaisseur de matière grise, c'est là où il y a les corps cellulaires des neurones, que les non-méditants. Et cette matière grise qui a tendance à s'atrophier, donc à diminuer en épaisseur avec le vieillissement, avec l'âge, on observe une moins grande diminution de cette matière grise chez les méditants experts. Et puis toutes les capacités perceptives aussi qui sont nettement supérieures, tout ce qui est lié à l'attention notamment, la résistance à la douleur aussi. Donc quand on compare ces deux publics qui ont une expérience très différente, on voit des différences assez marquées sur tout un tas de caractéristiques, qu'elles soient neurologiques, physiologiques ou autres. Il y a même des effets anti-inflammatoires, par exemple de la méditation, qui jouent sur une molécule qu'on appelle le TNF-alpha notamment. Il y a des effets sur l'expression des gènes, sur le rythme cardiaque, vraiment beaucoup de données physiologiques. Maintenant, quand on fait des études en comparant des personnes qui n'ont pas médité ou qui ont fait autre chose, et puis des personnes qui ont fait un programme court comme ceux dont je parlais tout à l'heure, le programme basé sur la pleine conscience de type MBSR, les données en général sont moins, les différences sont moins flagrantes, ce qui peut paraître normal, mais on trouve des différences. Par exemple, il y a un programme qui s'appelle MBCT qui a été conçu exprès pour prévenir la rechute dépressive, puisqu'on considère la dépression, c'est une maladie assez prégnante, on considère que 20% des adultes ont connu ou connaîtront un passage de dépression majeure. Et quand on a fait une première dépression, le risque d'en avoir une autre est plus important que si on n'en a jamais fait. Et au niveau médicamenteux, pour prévenir la rechute dépressive, il est nécessaire de prendre des antidépresseurs de manière continue. Parce que si on arrête des antidépresseurs, à ce moment-là, le risque de rechute, il augmente immédiatement. Et ce programme MBCT, qui dure aussi à peu près 25 heures, il est aussi efficace que la prise continue d'antidépresseurs pour prévenir la rechute dépressive. Donc c'est très intéressant parce qu'évidemment il y a beaucoup moins d'effets secondaires. C'est beaucoup moins intéressant évidemment pour les industries pharmaceutiques. Where I play. parmi ces effets, alors par exemple, on n'a pas trouvé vraiment d'effet statistiquement différent de manière robuste sur ce qui est lié à l'anxiété, par exemple. À ce moment-là, les anxiolytiques, c'est plus efficace. Mais les chercheurs ont commencé à questionner cette décontextualisation de la pleine conscience. Parce qu'on a vu que la pleine conscience était instrumentalisée, par exemple, par les entreprises. En gros, l'idée étant de dire, bon, bah, maintenant, méditez, soyez contents, et puis acceptez les conditions de travail, même si elles ne vous conviennent pas. Et c'est ce qui a été appelé la MAC mindfulness, un peu comme par analogie à McDonald's. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on instrumentalise ça pour mieux faire passer des choses qui ne sont pas forcément acceptables du point de vue éthique. Et là, ça fait, disons, une dizaine d'années que les chercheurs se sont mis à questionner cette décontextualisation et de dire, à la base, c'était un outil de développement spirituel, il y avait un cadre qui allait avec une certaine philosophie, une éthique, et le fait finalement de le prendre et de le sortir de ce cadre et de l'utiliser un peu à toutes les sauces, bah, est-ce que ça convient vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas des dérives qu'on pourrait prévenir? Et comment on pourrait les prévenir, ces dérives? Donc il y a des recherches qui sont très balbutiantes sur le lien entre, et c'est plus particulièrement ça qui m'intéresse et ce dont je vais parler ensuite, sur le lien qu'il peut y avoir entre l'éthique et la pleine conscience. Il y a des chercheurs au début qui argumentaient pour justifier le fait que l'éthique était en quelque sorte inhérente à la pleine conscience et que si on s'entraînait comme ça à méditer, eh bien ça permettait de devenir en fait plus connecté à son environnement et d'avoir des comportements plus éthiques. Mais ça a été beaucoup controversé et aujourd'hui, il semble que la position théorique dominante aille plutôt en faveur d'une indépendance entre la pleine conscience, qui est cet état d'esprit dans lequel on est pleinement conscient des phénomènes sans les juger. On est attentif à ce qui se passe d'instant en instant, sans être dans le jugement du phénomène en termes de j'aime, j'aime pas, ou dans l'ignorance de ce qui se passe, dans une forme d'accueil, ce qui ne signifie pas d'accepter tout. Hein, dans le sens où ça n'exclut pas de poser des actions vis-à-vis de choses injustes, mais ces actions, on va les poser d'une manière plus sereine et plus détachée, en prenant moins les choses personnellement, en quelque sorte. Donc la pleine conscience, c'est lié à une forme de lucidité. Une lucidité, une attention élargie. Il y a quelques études qui ont montré récemment, alors c'est assez subtil à regarder au niveau statistique, ils ont essayé d'opérationnaliser l'éthique, parce que ça c'est une grosse question, quand on dit finalement les personnes, est-ce qu'elles deviennent plus éthiques ou moins éthiques, ça pose la question de c'est quoi l'éthique et comment on arrive à évaluer si une personne et entre guillemets plus ou moins éthique. Donc ça a été fait de manière qui en fait ne relève pas réellement de l'éthique mais plutôt de la morale ou de comportement normé. Ça a été fait en particulier par des mesures de prosocialité où en gros on raconte une histoire aux personnes, on dit voilà, il y a une personne qui souffre, on vous donne $10 pour participer à l'expérience, est-ce que vous voulez bien redonner ces $10 à la personne? En fait c'est une donation sur un cas qui est en fait fictif. C'est, ce genre de mesure est pris comme mesure d'éthique. Je collabore avec une éthicienne. Selon elle, c'est pas du tout de l'éthique, ça. Donc c'est plutôt de la prosocialité ou autre. Mais bon, avec ce genre de mesure-là, il y a quelques études, ça reste à confirmer, hein, c'est vraiment très faible comme nombre d'études pour l'instant, qui avaient tendance à montrer qu'en fait, les personnes qui avaient certaines prédispositions au départ, par exemple, ça a été fait sur l'empathie. Donc on regardait au début de manière globale, on disait, bah oui, regardez, les personnes, elles ont médité, et en moyenne, leur évolution, bah, elles deviennent plus empathiques après. Et en fait, quand on a regardé dans le détail, on s'est aperçu que les personnes qui étaient les moins empathiques au départ, après avoir médité, elles étaient encore moins empathiques. Et inversement, celles qui étaient déjà plus empathiques que la moyenne devenaient plus empathiques. Et on voyait le même type d'effet sur ces comportements prosociaux. Alors, on a regardé ça avec l'empathie ou avec certaines constructions du soi. Si on se considère comme un soi plus individuel ou plus social, hein, je simplifie. Et donc ces études qui laissent penser qu'en fait, il est possible que la méditation seule, donc si on fait juste entraîner notre attention, notre esprit, elle puisse tout simplement un peu augmenter les tendances qui sont déjà là en fait, nos dispositions qui sont déjà là. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans la recherche en ce moment et dans ce que j'essaye de mettre en œuvre avec des collègues, notamment des éthiciennes, des Québécoises, c'est d'évaluer les conditions dans lesquelles la méditation, ça peut aider à rendre plus éthique. Donc d'abord, on pose la question, qu'est-ce qu'on entend par éthique ? Alors, plus particulièrement dans mes travaux, je parle de responsabilité. Comment on va opérationnaliser ça ? Arriver à essayer de mettre une mesure là-dessus, un chiffre. Vous voyez, ça paraît très réducteur de mettre un chiffre sur quelque chose comme ça. Donc ce qu'on met en place là, c'est qu'on va essayer de combiner des mesures quantitatives avec des mesures qualitatives. Alors les mesures quantitatives, ce sont des mesures auto-rapportées. Donc derrière, il y a un modèle théorique de ce que c'est la responsabilité. Et en l'occurrence, hein, de manière résumée, c'est considéré ici comme le fait de travailler sur soi-même pour essayer d'avoir un comportement qui est plus aligné avec nos propres valeurs. Donc, ça veut dire que la personne, elle est dans une démarche où elle va essayer de regarder finalement, d'avoir un retour réflexif sur ses propres actions, essayer de les analyser en termes de valeurs et essayer de les réguler pour agir d'une manière plus cohérente avec ses valeurs. Je passe les détails, mais il y a beaucoup d'études qui montrent que spontanément, la plupart des gens sont un peu incohérents. En fait, on a des valeurs déclaratives et on agit souvent à l'encontre de nos valeurs. Un petit exemple que je donne dans mes cours, c'est voilà, si je vous demande est-ce que le respect, c'est une valeur importante pour vous, il y a de fortes chances que vous leviez presque tous la main. Et si je vous demande est-ce que vous avez déjà insulté quelqu'un, ne serait-ce qu'en pensée, ou un chauffard en voiture qui ne vous entendait pas, il y a de fortes chances que vous leviez presque tous la main. Bon, sauf ceux qui ne conduisent pas. Mais voilà, parce qu'on a des réactions impulsives, parce que des fois, on est dans des situations où on est moins vigilant sur nos manières d'agir. Notamment, il y a des études qui ont montré quand on est dans des contextes un peu inconnus. Voilà, cette cohérence, elle n'est pas toujours là, en fait. Et donc, dans mon modèle, la responsabilité vise à travailler sur soi pour augmenter cette cohérence, pour que nos manières d'agir, de nous comporter, de parler, soient plus cohérentes avec nos propres valeurs. Donc au niveau, on a traduit ça en un questionnaire, où là on est en train de le valider, le questionnaire, enfin on s'apprête à le valider. Si vous voulez remplir le questionnaire, vous pouvez me contacter sur LinkedIn et je ferai passer l'info quand il sera vraiment bientôt à remplir pour les données de recherche, pour essayer de le valider. On voit si les personnes, quelles quel degré d'accord elles ont avec ces phrases. Donc c'est auto-rapporté, ça comporte des biais aussi. Mais en fonction de ça, on va calculer un score. Et le but du jeu, c'est pas de dire oui, telle personne est responsable et telle personne elle est pas responsable, parce que c'est pas des mesures cliniques. Ces outils-là n'ont pas la capacité à poser un diagnostic sur une personne, d'accord ? Et ça serait pas une utilisation éthique du questionnaire. Ce qu'on peut, et puis en plus, il y a des personnes qui ont tendance à avoir des réponses plus mesurées et d'autres plus extrêmes, et ça n'a rien à voir avec leur responsabilité, c'est juste leur manière de s'exprimer. Donc ça, c'est des mesures qui sont faites pour mesurer des évolutions dans le temps, ou à la limite des comparaisons statistiques entre populations, mais pas de poser comme ça un niveau absolu sur une personne. Ça, c'est un point important. Et nous, ce qui nous intéresse, en l'occurrence, ça va être de faire passer le questionnaire, par exemple, avant un programme de méditation et après, en comparant avec un groupe témoin pour voir l'évolution et pour la mesurer. Et là, peu importe les biais qu'il y avait au départ, on considère qu'ils sont les mêmes dans le groupe contrôle et que si on voit une évolution qu'on voit dans le groupe qui a médité, qu'on ne voit pas dans le groupe contrôle, ça pourra être un indicateur qu'il y a un effet de la méditation sur la responsabilité auto-rapportée, comme on appelle. Mais on va aussi combiner avec des mesures qualitatives, avec des entretiens, où on va interroger les personnes qui ont suivi le programme de méditation sur la manière dont elles vivent les situations, dont elles les perçoivent, dont elles les interprètent, sur quelle base elles prennent leurs décisions. Et ça, c'est un moyen complémentaire aussi pour les deux combinés pour avoir différents regards sur une situation et essayer de pouvoir poser un diagnostic scientifique en quelque sorte sur cette question. Est-ce que la méditation, ça permet cette évolution ? Et je voudrais juste terminer pour préciser. Donc ça, c'est au niveau des études. Hein. On vient d'ouvrir à la fac de médecine un module de méditation pour les médecins en formation où on va faire différents groupes et on va comparer, en l'occurrence, un programme de méditation dans lequel il y a un enseignement éthique explicite, c'est-à-dire on réfléchit sur c'est quoi nos valeurs, est-ce qu'on agit conformément à nos valeurs ou pas. Il y a des exercices dans la vie réelle pour accompagner ce cheminement-là. Un exercice de méditation classique type MBSR dont je parlais tout à l'heure, et puis un groupe contrôle actif et un groupe contrôle d'attente. Et on va essayer de comparer ces quatre groupes. Et l'hypothèse en particulier que je voudrais tester, c'est que le groupe qui fait le programme MBER, hein, c'est un programme que j'ai créé qui vise à développer l'éthique par la méditation, il va développer à la fois davantage sa responsabilité et sa santé, en l'occurrence son bien-être, d'une manière plus importante, peut-être paradoxalement, que le programme qui est uniquement basé sur la réduction du stress et sur la santé. Parce que par ailleurs, il y a des études qui tendent à montrer que quelque chose qui nous rend vraiment plus heureux, c'est le lien social, c'est les relations bienveillantes, c'est d'être tourné vers les autres. Et c'est ça qu'on travaille dans l'éthique, en fait. C'est de ne pas agir uniquement à travers notre propre prisme, mais aussi de prendre en compte les autres, l'environnement non humain, la situation. Voilà, donc j'espère qu'on pourra tester ça prochainement et l'avenir dira si les résultats sont conformes aux hypothèses ou pas.
Merci.
Bravo.
Est-ce que vous souhaitez intervenir ? Est-ce que vous avez des questions à poser autour de cette présentation ? Puisque là, on est loin, évidemment, des clichés, du folklore, hein, de la méditation et tout ce que l'on peut fantasmer. On est dans un côté très universitaire. Alors avec, moi, beaucoup de questions autour de cette étude, puisque tu parlais d'auto-évaluation, et on sait comment l'être humain peut être, à savoir donc toujours se voir plus beau. Le fait que ce soit tronqué dès le départ, du moins auto-évalué, donc obligatoirement plus ou moins juste, on est d'accord. Tu expliquais que ça n'avait aucun impact par la suite. Comment tu mesures en tous les cas ce biais-là qui pour moi me gêne un petit peu et que toi tu ne prends pas en compte ?
Alors, on le prend en compte, c'est-à-dire que dans la validation du questionnaire, En fait, on fait passer alors un questionnaire qui est un questionnaire de désirabilité sociale. Et on va voir, parce qu'on ne demande pas aux personnes « je suis responsable », oui, non. C'est des choses indirectes. D'ailleurs, on ne dit pas qu'on essaye d'évaluer la responsabilité. On emploie une formulation plus générale. Et dans la validation, en fait, on va voir quelles réponses, quelles phrases sont les plus corrélées avec le questionnaire de désirabilité sociale. Donc celle où il y a une forte désirabilité sociale, celle où la personne, elle va répondre « oui, plutôt d'accord » parce que sinon, elle aurait l'impression inconsciemment que ça ne se fait pas, quoi, en gros, de répondre pas d'accord, ben ça, on va le voir. Et ces items-là, on les enlèvera. C'est ça, c'est dans la phase de validation du questionnaire. Ça veut dire que normalement, si le questionnaire est bien fait, il restera à la fin que les phrases qui ont moins de désirabilité sociale, c'est-à-dire celles où c'est pas si évident que ça de voir qu'est-ce qui est désirable socialement comme réponse. Voilà, mais il y en a toujours un peu. Et là où je disais que ça ne comptait pas, c'est parce qu'en fait, quand on compare deux situations, on considère, avant-après, on considère que la désirabilité sociale, elle ne change pas entre les deux. Donc si, par exemple, toi, tu as rempli le questionnaire et puis tu as mis les réponses comme ça parce que cet aspect-là, ça te semblait un peu plus désirable socialement. T'as quand même aussi répondu en fonction de ton vécu, en fonction de comment tu perçois les choses, même si tu les perçois d'une manière partielle. Et si après avoir médité, tes réponses changent, bah elles vont toujours être influencées potentiellement de la même manière par la désirabilité sociale. Mais ton vécu, tout ça, va te faire répondre différemment. Et comme c'est des mesures qu'on dit apparier, c'est-à-dire qu'on va apparier les réponses, tes réponses au pré-test et tes réponses au post-test, on va les mettre ensemble. Et ça, pour chaque individu. Donc on peut voir vraiment des évolutions, même si nous, on ne regarde jamais au niveau individuel, c'est au niveau statistique global. On fait des statistiques apparier en considérant que c'est la même personne qui a répondu ça au début et qui répond ça à la fin. Et c'est là où ce biais-là, il est en quelque sorte neutralisé. Il y a ça d'une part, et d'autre part, la comparaison avec le groupe contrôle. C'est-à-dire qu'on va comparer des gens qui ont médité, avant-après, avec des gens qui n'ont pas médité, ou alors qui ont médité dans d'autres conditions, qui ont fait autre chose, et on va aussi leur faire passer le questionnaire avant-après. Et là, ces biais, ils sont les mêmes. Et donc, on considère que s'il y a une évolution des réponses plus dans ce groupe-là que dans les autres, c'est lié à ce qu'il y a eu entre les deux, en l'occurrence le programme de méditation, et pas enfin que les biais sont les mêmes à chaque fois. Je ne sais pas si ma réponse est claire.
On participera à cette étude. On verra si je réponds différemment ou pas. En tout cas, c'est assez intéressant aussi de vouloir interagir. Sur une notion qui est primordiale, notamment lorsque l'on parle de recherche, à savoir l'éthique. Là encore, existe-t-il une éthique internationale, ou est-ce que l'éthique est propre à chacun des individus, de cultures, de religions différentes ? Comment réfléchir à trouver une éthique globale, puisqu'on peut s'apercevoir malheureusement dans différents domaines de recherche que l'éthique elle a pris cher, quoi. Je pense notamment à l'intelligence artificielle ou ce genre de choses, quoi.
Alors, c'est une très bonne question. En fait, on considère que dans l'époque de la modernité, il y avait, en gros, jusqu'à la moitié du siècle dernier, il y avait une morale dominante. C'est-à-dire que dans les sociétés, il y avait des modèles, des mœurs qui étaient dominants et la plupart des gens s'y conformaient. Et aujourd'hui, donc, il y a des auteurs qui parlent d'une société post-moderne. Ils disent maintenant, on n'est plus dans la modernité. Ce modèle-là, avec des normes dominantes, il a échoué, en fait, il s'est écroulé. Et maintenant, il y a des morales. Il y a des... voilà, on avait un président bling-bling, on avait un président qui a divorcé. Vous voyez, au siècle dernier, c'est au milieu du siècle dernier, c'était impensable. Il y avait un modèle et il fallait s'y conformer. Et maintenant, il y a plein de choses qui ont l'air possibles et qui ont l'air acceptables, quoi. Donc, il n'y a plus ce modèle normé comme ça. Et quand on parle d'éthique au sens normatif, comme dans les comités d'éthique qui vont dire voilà les pratiques, les bonnes pratiques, en fait, ce n'est pas de l'éthique au sens des éthiciens. C'est plutôt de la déontologie, c'est-à-dire des règles professionnelles. Voilà, la question de savoir est-ce que piquer dans la caisse est éthique ou pas, c'est, en fait, c'est pas une question éthique. C'est la question, c'est légal ou c'est illégal ? C'est déontologique ou c'est pas déontologique ? Et là, la réponse, elle est claire, en fait. Alors que l'éthique, elle va intervenir plus dans les zones grises, où c'est pas clair. Parce que, justement, il n'y a plus ces modèles dominants. Et dans beaucoup de professions, on se retrouve dans des situations où, oui, bon, il y a un code de déontologie qui parle de ce cas d'une manière un peu floue, mais là, je me sens pris en tension entre des valeurs différentes. Et qu'est-ce qui est juste de faire dans cette situation ? Ben, là, ce n'est pas évident pour moi. Et c'est là qu'elle entre en jeu, l'éthique, dans ces zones où ce n'est pas évident. Et ce qui ressort de ces études en éthique, c'est que ben, dans ces moments-là, ce qui est important de faire, c'est d'être responsable, c'est-à-dire de faire ses propres choix, de les défendre, d'en parler. Hein. On peut faire ses propres choix aussi en échangeant avec les gens, en leur demandant leur avis, leur regard, etc. Mais c'est aussi un moment se tenir debout et défendre ce qui nous paraît juste. Et de l'affirmer, de le dire, d'essayer d'amener des arguments. Et donc c'est une éthique, du coup, ça c'est vraiment l'éthique au sens pragmatiste du terme qui est très situationniste. Parce que, en fait, qu'est-ce qui est juste de faire ? Eh bien, ça dépend de la situation. Il n'y a pas une règle comme ça qu'on peut écrire et dire voilà comment il faut faire. Ben non, parce que selon les circonstances précises, la réponse juste, elle ne va pas être la même. Et avec la complexité du monde d'aujourd'hui, cette complexité de l'éclatement des valeurs, des modèles moraux et tout ça, c'est de moins en moins facile d'avoir justement ces repères sur qu'est-ce qui est juste de faire, qu'est-ce qui est bon de faire pour moi, pour autrui, pour l'environnement. Et c'est là où il y a toute une démarche à faire sur nos propres valeurs pour s'aligner avec nos valeurs et trouver finalement nos propres repères intrinsèques, là où à l'extérieur, les repères, ils sont beaucoup moins évidents qu'auparavant.
Eh bien, merci beaucoup. Louis, tu vas pouvoir nous remettre en lumière. Merci, Hélène.